Il était une fois un roi qui tomba amoureux de la fille d'un boulanger. Elle était pauvre mais belle et il l'épousa. Pendant quelques années, les deux époux vécurent dans une harmonie et un bonheur presque parfait. À la mort de son père, le prince monta sur le trône. Mais à partir de ce jour-là, les ministres et les conseillers s'empressèrent de lui faire comprendre que, pour le prestige du royaume, il devait renvoyer sa femme, issue du peuple, et épouser la fille du puissant roi voisin, afin de s'assurer par ce nouveau mariage une période de paix et de prospérité. L'insistance des ministres et des conseillers se fit de plus en plus pressante. Et le jeune roi finit par céder. « Je dois te renvoyer, » dit-il à sa femme. « Demain, tu retourneras auprès de ton père et pour te dédommager, tu pourras emporter de ce palais ce qui t'est le plus cher. » Ce soir-là, ils dînèrent ensemble pour la dernière fois, un dîner bien arrosé. À la fin du repas, le roi tomba dans un profond sommeil. Alors son épouse l'enroula dans une couverture et le chargea sur ses épaules. Le lendemain matin, le roi se réveilla dans la maison du boulanger. « Mais comment, mais pourquoi ?» s'étonna le roi. Sa femme lui sourit et dit « Tu avais bien dit que je pourrais emporter ce que j'avais de plus cher. Eh bien, ce que j'ai de plus cher de ce palais et du monde entier, c'est toi. Sans toi, je ne peux pas vivre. » Voici une bien belle histoire d'amour. Eh bien, vous serez peut-être surpris, mais nos textes pour ce matin, entre vignes et vignerons, n'est rien d'autre qu'une autre belle histoire d'amour. Si je vous demandais à vous maintenant de dessiner ou de raconter l'amour ou de le chanter, que feriez-vous? Peut-être me raconteriez-vous votre propre histoire? Peut-être dessineriez-vous un cœur, symbole de l'amour depuis toujours? Ou peut-être chanteriez-vous une de ces chansons populaires sur l'amour entre deux êtres? Jésus, lui, à son époque et avec ses contemporains, a aussi raconté l'amour. Et dans notre texte, il le fait avec l'image de la vigne. Déjà, dans le Premier Testament, la vigne du Seigneur est l'image du peuple que Dieu aime. Vous avez entendu dans la première lecture, Ésaïe 5, que l'on appelle le chant du vigneron. Eh bien, cette histoire de ce propriétaire vigneron, désespéré de voir sa vigne infructueuse, renonce alors à la protéger et laisse les bêtes sauvages, entendez les empires babyloniens et perses, enfranchir la clôture et la dévaster. Mais contrairement à ce que l'on pense souvent, la vigne n'est pas arrachée. Israël n'est pas anéanti. Seulement, pour une durée indéterminée, Israël n'est plus sous la protection de Dieu. Le thème de ce chant du vigneron sera repris d'ailleurs dans une autre parabole sur la vigne dans l'évangile de Matthieu. Cette parabole que vous connaissez peut-être, où le maître confie à d'autres sa vigne pour qu'ils en prennent soin à sa place. Les trois textes que vous avez entendus sont un petit peu comme des textes en enfilade. Alors le dernier que vous avez entendu dans l'évangile, Jean 15, est une autre lecture de ce chant des vignerons, dans laquelle cette fois Jésus lui-même s'identifie avec la vigne qui est renvoyée au peuple. On parle alors de vigne vraie. De nouveau, le vigneron est identifié à Dieu le Père. Mais la scène sur laquelle l'évangéliste s'arrête n'est pas celle de la vendange, mais celle de la taille. Le vigneron taille sa vigne pour qu'elle porte encore plus de fruits. Il enlève les sarments improductifs, il émonde, c'est-à-dire il purifie les autres. Si, en apparence, il y a cette notion de destruction dans nos deux textes, ils n'ont pas le même sens. Dans celui d'Ésaïe, il traduit la désespérance du vigneron. Il n'y a rien, ça ne fonctionne pas, je suis désespéré. Dans l'évangile de Jean, il traduit au contraire l'espérance. C'est parce qu'il croit que sa vigne pourra encore lui donner plus de fruits que le vigneron s'est mis au travail et décide de tailler et de purifier. Le troisième texte de la lettre de Jean est une relecture de Jean 15. Vous voyez, Jean 15, relecture d'Ésaïe, 1 Jean 3, relecture de Jean 15. Alors là, l'auteur abandonne la métaphore de la vigne, il ne garde que le lien entre les disciples et le maître. Demeurez en lui, demeurez en Christ. Je vous relis le tout premier verset, le 18. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Et on retrouve ce petit mot « vrai ». Dans notre vie de tous les jours, il nous est souvent reproché, ou alors on se reproche souvent à nous-mêmes, de trop nous agiter, de trop nous activer, de vouloir trop remplir nos semaines, nos journées, et même pour les retraités. Vous me dites, oulala, depuis que je suis à la retraite, je n'ai jamais été aussi occupée. On se reproche ou on nous reproche de trop produire, au détriment de l'être. Et dans nos textes ce matin, on retrouve cette idée, cette demande de productivité. Agissez, faites ce qui plaît au Christ, lisons-nous dans la première lettre de Jean. Et dans la bouche de l'évangéliste, Jésus demande de demeurer attaché à lui pour porter encore plus de fruits. Toujours faire, toujours produire. Et s'il me plaît à moi d'être dans un lieu où je n'ai rien à faire, mais simplement à être. Être dans un jardin au soleil sans avoir à tondre sa pelouse. Être dans une cuisine à humer les bonnes odeurs sans avoir à participer aux épluchages. Être dans une chambre à écouter de la musique sans avoir à y passer l'aspirateur. Être et non faire. Être et ne pas produire. Être sans avoir à porter du fruit, est-ce possible ? Notre texte d'évangile aujourd'hui est catégorique. Qui ne porte pas du fruit, le maître l'enlève. Il le chasse, il le met en dehors de la vigne. Alors Dieu est-il cette mère de famille qui fait irruption dans la cuisine quand j'en respire les bonnes odeurs et me reproche « Que fais-tu donc là sans rien faire ?» Lors de mes visites en paroisse, je réalise que la plus grande désespérance des personnes les plus âgées d'entre nous n'est pas la souffrance. Ce n'est pas non plus la peur de mourir, mais c'est celle de ne plus être utile aux autres, de ne plus rien avoir à faire pour personne. Une paroissienne qui faisait sien ce sentiment me racontait avoir donné des papiers administratifs à remplir à son propre fils de peur que lui-même ne ressente ce sentiment désagréable. Revenons vers Ésaïe, le prophète. Et plus tard, au moment de l'exil, quand a été relue l'histoire d'Israël, avec la destruction de Jérusalem. Eh bien, à ce moment-là, la question s'est posée de savoir pourquoi Dieu avait donc laissé faire. Pourquoi Dieu n'avait pas pris la défense d'Israël ? Le chant du bien-aimé dans notre passage explique qu'Israël était alors comme une vigne sans fruit. Le vigneron divin avait eu beau en ôter les pierres et la protéger d'une tour, elle était restée stérile. Pourquoi alors l'a-t-il laissé vivre ? Souvenez-vous, je vous l'ai dit, il ne l'a pas détruite, il ne l'a pas arrachée, il n'y a pas mis le feu. Il a simplement laissé faire, il a fait tomber les barrières. Les bêtes sont venues la piétiner et la ravager. Les empires sont venus prendre la ville. Pourquoi Dieu n'a pas détruit Israël ? Car si le peuple venait à changer, qui sait ? Si la vigne piétinée venait à donner ne serait-ce qu'une grappe, peut-être alors le vigneron reprendrait-il espoir et le chemin de son labeur ? Car la vigne, même foulée aux pieds, est plus que ce qu'elle produit ou ne produit pas. Elle est, tout simplement, et de toute façon. Elle vit, elle est vivante encore. Oui, peut-être sauvage et délaissée aujourd'hui, mais demain, sûrement à nouveau entretenue et investie des espérances du vigneron. En voilà une bonne nouvelle. Tu es certes invité à produire du fruit par l'amour que Jésus-Christ te donne. Mais de toute façon, et de toutes les manières, tu es plus que ce que tu fais ou ne fais pas. Tu es vivant. La vie t'a été donnée et cela te suffit pour aimer et être aimé. Jésus a aussi dit « Je suis la vie, je suis le pain de vie, je suis la vigne. » Je n'ai pas la main verte, mais comme beaucoup de plantes, elles ne produisent pas si elles ne sont pas l'objet de soins intensifs. Telle est la vigne. Nous avons un spécialiste avec nous ce matin, notre ami David, qui vient d'Alsace et qui est viticulteur et qui était avec nous au groupe de jeunes hier soir. Alors, tu me corriges si je me trompe. Désherbage, sulfatage, greffe et puis bien sûr taille, qui demande beaucoup d'expérience et de connaissance de ce qu'on fait. Le vigneron taille et émonde, coupe les sarments qui ne porteront rien et taille les sarments qui porteront du fruit. Et c'est vrai que si on ne sait pas et que l'on passe après, on peut se demander, mais quel est donc ce carnage ? Toutes ces branches coupées, on peut être très surpris. On peut croire que le vigneron a laissé faire. C'est tout le contraire. Le vigneron s'est décarcassé pour que sa vigne porte du fruit. Jésus-Christ est la vigne. Émondé, taillé, coupé par les hommes, un reste d'homme sur la croix. Le vendredi, on le croirait abandonné à ses bourreaux et à la foule qui hurle. Et toi aussi, peut-être, te sens-tu laissé sur le chemin. Peut-être vis-tu un vendredi saint. Mais pourtant, tu n'es pas abandonné. Si tu désespères des autres et de toi-même, si tu penses ne plus jamais pouvoir porter de fruits, si tu ressens les blessures de la vie comme un abandon de Dieu, si même ton cœur te condamne, alors Dieu est plus grand que ton cœur. Le dimanche arrive, la résurrection est là. Tu es peut-être encore attaché au cep. Avec lui, tu as mal, mais avec lui, tu vis, tu revis, tu ressuscites. Tu n'es pas par ce que tu fais ou ne fais pas. Lui t'a aimé le premier. Tu es en lui. Tu vis en lui. Alors demeure en lui et le fruit viendra. Et ce fruit ne sera pas ce que tu feras. Il sera ce que tu seras. Tu es sarment, tu seras fruit. Souvenez-vous de cette belle histoire d'amour que j'ai racontée au début. Ce que l'épouse a dit au roi à son réveil, c'est Dieu qui le dit à chacun de nous. Ce que j'ai de plus précieux au monde, c'est toi. Notre histoire ne dit pas ce que l'époux répond à son épouse, mais on pourrait imaginer. Il lui a certainement dit avec tendresse « Je t'aime moi aussi ». C'est cette réponse que Dieu attend de chacun. Je sais que sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Je sais que sans toi, je ne peux pas vivre et avancer dans mon chemin. Alors, je choisis la confiance. Je te donne ma vie. Amen.